chose que l'Église maintient et demande, c'est qu'on considère que dès le premier instant de la conception biologique, c'est un être humain. Et ceci, philosophiquement, se comprend très bien. Puisque, normalement, si on laisse le développement naturel dès le premier instant de la conception, ça conduit au développement normal de l'embryon et à la naissance. Donc c'est un être humain. On définit, prenez tout simplement ça, on définit un développement et un parcours en raison du terme. Je vais à Paris. C'est Paris qui fait que ce voyage est vers Paris. Dès le premier instant, il est vers Paris. Je vais à Paris. Et dès le premier instant, l'embryon est ordonné à la naissance. La naissance d'un homme. Donc c'est un être humain. Au sens fort. On peut dire, oh, c'est pas encore un homme, c'est pas encore une personne. C'est un être humain. Fini. Et c'est ce qu'on doit dire, du reste, pour le philosophe. Y a-t-il un moment où on peut dire que l'âme n'est pas présente dans le corps? Il y a un moment où on peut dire qu'elle l'est. On peut le dire, mais pas d'une façon certaine. Vous voyez, parce qu'autrement, je pourrais préciser le moment en précisant, tiens. On a fait cette petite étude ensemble. Puisque parmi les étudiants, il y avait plusieurs frères, il y en avait qui avaient fait pas mal d'études biologiques. Et puis il y avait un illustre docteur et médecin. Alors c'était facile de faire cette étude ensemble pour essayer de comprendre. Alors il y a seulement quelque chose qui m'indique, selon les traditions religieuses, dans la tradition religieuse, judéo-chrétienne, il faudrait relever tous les textes où on parle de l'embryon. Ce serait intéressant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et puis il y a aussi cette affirmation qui m'a toujours semblé très intéressante. Le sang, c'est l'âme. Le symbolisme du sang rattaché à l'âme. C'est curieux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on s'est posé la question, mais toujours dans une recherche, je ne dis pas que c'est ça qui me donne la nez, mais c'est une recherche. À quel moment le sang dans l'embryon a-t-il son autonomie? Ça indiquerait qu'il y a une source d'autonomie vitale. Vous voyez ? Et donc que l'âme serait là présente. Il y a deux choses, vous voyez, qu'il faut sauvegarder au plan philosophique. Il faut sauvegarder d'une part que le père et la mère sont vraiment co-secondes. Le père est vraiment père et la mère est vraiment mère. Donc ils sont co-secondes du petit enfant. La causalité divine ne supprime pas les causalités propres. Si Dieu crée l'âme, Dieu veut créer l'âme en coopération avec les parents. Ah, c'est l'intention de Dieu. Et ça, c'est important à comprendre. Puis il y a tout l'atavisme. La loi de l'atavisme est très nette, et ça, scientifiquement, on la voit. Et elle est marquée à travers le corps. On trouve des choses très curieuses de lien entre l'enfant et la mère, ou entre l'enfant et le père. Or, c'est quand même là où on voit un lien très fort, très grand, au point de vue de la causalité matérielle. Alors, si la causalité formelle est immédiate et très forte. C'est elle qui prend tout. Alors on ne peut pas nier le point de vue de l'atavisme. Et au plan religieux, en plus de ça, la transmission du péché originel. Selon le Concile de Trente et le Saint-Père Paul VI a affirmé que le dernier concile ne diminuait rien du tout de ce qui avait été dit au Concile de Trente à propos du péché originel. Je sais très bien, je n'entre pas dans cette question-là, je sais très bien qu'au point de vue théologique, la question du péché originel est une des questions brûlantes. Quand on commence à faire un exposé sur le péché originel aujourd'hui et qu'on voit dans l'Assemblée quelques théologiens, on fait attention, on met des gants de velours, puis on commence à être très très prudent, parce qu'on sait que il y a des sensibilités qui sont particulièrement vives là-dessus. Et l'Église a toujours maintenu qu'il y a le péché originel. Ça, on ne peut pas nier. Et le psaume 50, que nous récitons tous les vendredis, exprès, pas à cause du péché originel, vous comprenez, mais qu'on récite, parce que c'est un psaume de pénitence et qui est très beau. On est né dans le péché. Et il faut le rappeler, du reste, pour être libéré du péché le plus vite possible. Et c'est pour ça que le baptême est donné aux enfants. Et ça, tous les arguments que peuvent donner les théologiens là-dessus ne sont pas justes. La doctrine de l'Église est nette. Alors on peut essayer de mieux le comprendre, ça, toujours, toujours. Parce que c'est un mystère. Ceci montre combien la causalité matérielle, la dépendance de l'enfant à l'égard de ses parents est quelque chose de fort. Ça, c'est sûr. L'âme est créée par Dieu, mais elle est créée dans un petit être qui est tout entier en vue de l'âme, pour l'âme. Le mieux, ce serait c'est au moment où on découvre qu'il y a une certaine autonomie vitale. Et c'est le sang qui manifeste le mieux. Mais encore une fois, c'est pas certain. L'Église dirait aujourd'hui que l'âme est créée directement dès le premier instant de la conception. Très bien. Si l'Église dit ça, il faudrait que ce soit vraiment l'Église au sens fort, pas seulement l'opinion d'un théologien, mais l'Église qui le dit comme une vérité de foi. Le Saint-Père est très prudent quand il affirme ça. Dans son encyclique sur la vie, vous voyez, c'était le lieu. Il dit un être vivant, un être humain. Et ça, c'est tout à fait juste. Tout le monde peut l'accepter, puisque le développement de l'embryon va jusqu'à la naissance d'un être humain. Mais il dit lui-même que les philosophes cherchent. Alors, voyez, n'oubliez pas que pour découvrir l'âme, nous l'avons vu, c'est une induction que nous faisons, nous, à l'égard d'un être qui est parfaitement développé et donc qui pense, qui aime. Je ne vais pas découvrir l'âme à partir de l'embryon. Non, je ne pourrais pas. Et c'est pour ça qu'un savant qui regarde uniquement avec sa méthode scientifique, biologique, ne peut pas découvrir l'âme. Il dit qu'il y a une force vitale unitive. Voilà ce qu'il peut dire. Et ça, c'est déjà beaucoup. D'où vient cette force vitale unitive? Elle vient des parents, c'est sûr, pour le corps. Mais très vite, il y a quelque chose qui est né. Très vite, après la naissance. Avant la naissance, on ne peut pas le savoir. On a une seule chose, que biologiquement, il y a un chiffre biologique distinct de l'enfant et des parents. On pose l'âme à partir de l'être qui est capable de penser. C'est sûr. Alors, un être qui n'est pas capable de penser, qui naît dans un état embryonnaire, dans un état très, très abîmé, très, très... L'Église, par prudence, le baptise sous condition. C'est sûr. Qu'elle considère que c'est très possible qu'il y ait une âme. Vous voyez, c'est l'Église, là-dessus, c'est la coutume de l'Église. Et même, elle permet la communion à des êtres qui expriment très peu, le point de vue de la pensée, et peut-être très handicapés. Elle respecte, ça, elle a toujours respecté. Petit être qui est né de ses parents et qui pourtant est très handicapé. On le respecte comme un homme, comme un être humain, et donc comme ayant une âme. Mais qu'à cause de quelques malformations biologiques, il ne peut pas développer son intelligence, son affectivité. Vous voyez, ça demanderait trop de détails et vraiment toute une, tout un bon moment. Et ce serait très intéressant à chercher. Mais ici, on ne peut pas. Quelle est la différence entre l'imagination et la mémoire? L'imagination est la conséquence directe de nos sensations. On les enregistre. Alors c'est ça que je voulais vous dire. C'est quelque chose de très curieux. De très curieux. Et que les psychanalystes qui étudient beaucoup, certains psychanalystes qui étudient beaucoup les rêves, c'est intéressant de voir que avec l'imagination et les sensations, la vision. Quand j'ai conscience de voir la couleur de la rose, quand j'ai conscience de voir la couleur de la rose, qu'est-ce que je vois en premier lieu? Je vois le sensible propre. Et les sensibles communs. Ça, c'est sûr. Je vois une rose dans un bouquet. Sensible commun, c'est la quantité. Et c'est pas la même chose de voir une seule fleur et de voir un très beau bouquet. De la Vierge Marie actuellement. Il était surtout beau hier. Aujourd'hui, il est déjà un peu moins beau. Il y a un très beau bouquet. Et la multitude des fleurs fait quelque chose. Que s'il n'y en avait qu'un, un œillet, ce serait beau, marqué un très bel œillet. On dirait qu'on aurait pu en mettre un peu plus. Et le bouquet est différent par le point de vue de la quantité. Donc, vous voyez, le sensible propre et la quantité est saisie aussi dans la vision. sensible propre qui devine. Et le sensible commun est ordonné au sensible propre. Dans l'imagination, les rêves, je suis coupé des sensations. Et je me forme au-dedans de moi-même des images. Et j'ai des images. Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait particulier ? C'est que l'image de l'imagination va inverser l'ordre. C'est les sensibles communs qui sont premiers et les sensibles propres qui sont relatifs. C'est très étonnant, ça. Sartre a une très belle étude sur l'imagination. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant chez lui. Parce que l'être et le néant, c'est pas commode à étudier. Pas beaucoup de personnes qui, sauf les philosophes, qui lisent l'être et le néant depuis le début jusqu'à la fin. On s'endort assez facilement. Tandis que le petit traité de l'imagination est intéressant. Sartre, simplement, cette constatation, bon, très bien. Il a regardé un grand immeuble, les Invalides. Regarde, fermez les yeux et comptez le nombre de fenêtres. Si vous l'avez compté avant, oui, vous avez répété, c'est ça. Autrement, si vous l'avez pour la première fois, puis vous fermez les yeux, vous êtes incapable de compter. Et voyez, c'est curieux, parce que dans la vision première, c'est pas le nombre qu'on regarde, c'est l'ensemble, et puis les sensibles propres, les sensibles communs sont seconds. Et dès que vous fermez les yeux et vous voulez vous représenter imaginativement ce que vous avez vu. L'image est inversée. C'est les sensibles communs qui sont premiers. Les sensibles propres sont seconds. Et les psychanalystes attentifs aux rêves, moins certains, m'ont dit, c'est très curieux, quand le malade est très fatigué, donc quand il est vraiment malade, les sensibles propres disparaissent dans l'imagination. Il n'y a que les sensibles communs. Et quand il recommence à retrouver un peu de santé, c'est-à-dire un peu de réalisme, distinguant bien l'imagination de la réalité, les sensibles propres réapparaissent. C'est intéressant, ça. Parce que ça montre bien que c'est par les sensibles propres que je suis en contact avec le réel. C'est pas les sensibles communs. Les sensibles communs me permettent de rester dans mon monde. Ça, c'est l'imagination. Et la mémoire, elle est ce qui garde l'imagination, les représentations, avec la référence à quelque chose qui est passé. Alors ça, c'est toute la question de la référence vis-à-vis du temps. À quel moment je touche le temps ? Je ne peux toucher le temps que par mon intelligence. Nous allons voir. C'est l'intelligence qui touche le temps et qui détecte le passé et le futur. Parce que c'est l'intelligence qui touche l'instant présent. Or, le passé et le futur sont en fonction de l'instant présent. Et donc, c'est dans l'expérience que le temps apparaît. Quand je suis dans l'imagination, où il y a inversion, point de vue de l'image, des sensibles communs et des sensibles propres, c'est les sensibles propres qui me permettent de saisir l'instant présent. Ce n'est pas les sensibles communs. Donc, le temps présent disparaît et c'est le temps passé qui va régler le point de vue de la mémoire. Il va le régler selon un certain ordre que je vais moi-même établir. Vous savez bien tous les procédés pour retenir certaines choses. Des procédés mnémotechniques. On fait des ressemblances et des rassemblances par des liens. Donc, qu'est-ce que c'est que la mémoire pour la vie? philosophie réaliste. La mémoire, c'est tout simplement les images gardées qui sont passées. Je ne suis pas directement en relation avec les sensations dans la mémoire. Il faut repasser par l'imagination pour être en présence des sensations. Il est sûr que dans le néoplatonisme, la mémoire prend une importance énorme. Alors là, c'est une question philosophique intéressante. Savoir si la mémoire est une mémoire sensible ou une mémoire de l'intelligence. Personnellement, je crois que la mémoire est sensible. Et elle s'ajoute à l'imagination. Et si j'étais plus néoplatonicien, je dirais que la mémoire est chose de l'intelligence. Or, il me semble bien que ce qu'on connaît par l'intelligence, on le connaît indépendamment de la mémoire. Indépendamment de l'imagination. C'est très curieux, ça. Au fond, il n'y a pas de mémoire de l'intelligence. Et ça, c'est un très gros problème, hein. Alors, je ne veux pas non plus le traiter ici. Nous allons donc maintenant entrer dans ce problème de l'affectivité, qui est au fond un problème extrêmement important. Du point de vue de l'éducation, c'est capital. Qu'est-ce que c'est que l'affectivité, l'affect? Il y a des affectivités gluantes. Il y a des affectivités sèches. Il y a des affectivités normales. C'est vrai. J'ai l'impression que certains aident. C'est un peu collant. Ils n'en peuvent rien, les pauvres. Ils sont nés comme ça. Et puis, il y a des affectivités qui sont très, très sèches. Parce qu'il est sec. Il manque un peu de liant. Parce que l'affectivité, c'est le liant, justement, avec lequel on rencontre les personnes, avec lequel on rencontre les choses. C'est tout le domaine passionnel. Si on avait le temps, je vous lirais le De Hieronymus Sénèque. Petit fascicule, rien du tout. Peut-être ce soir, je vous en lirai quelques passages. Le De Hieronymus Sénèque. Faut me l'apporter ici. Ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. C'est pour... N'oublions pas que pour le stoïcisme, les passions sont mauvaises. On doit les mater et les détruire. Pour la philosophie réaliste, les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles permettent le contact affectif. Et elles donnent un contact affectif. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est lorsque les passions sont trop fortes et qu'on se laisse entraîner par la passion. Ça, c'est sûr. Alors, à ce moment-là, on est comme ivre. On est pris par la passion. Certaines expériences passionnelles ou de la colère. Il faut toujours faire attention quand on a quelqu'un qui est très colérique, de ne pas le menacer inutilement. Pas la peine. Il risque de faire un mauvais coup. Quand on est en colère, on peut faire des mauvais coups. Ça dépasse la mesure. Au contraire, le concupiscible, quelqu'un qui est pris par le concupiscible, lui ne fera pas de mal. mauvais coup. Mais il se laissera entraîner par un autre qui l'entraîne. Dans le concupiscible, c'est comme ça. C'est très curieux. Et on passe les bornes. Les passions en soi ne sont pas mauvaises. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas passionné du tout, c'est terrible. Il y a une monotonie. On a envie de lui marcher sur les pieds pour le mettre un peu en colère, en disant, au moins qu'on voit quelque chose qui sort. Il n'y a rien, rien du tout. Vous savez, le lac, il n'y a aucun souffle, rien du tout. On dit que c'est un être humain, oui, c'est un être humain. Mais il a un peu avalé une loi. Alors il passe. On dirait qu'il ne voit que la justice. Et il n'est ému que par la justice. En dehors de la justice, rien du tout. Aucun contact sensible. Et en vie commune, on se remarque tout de suite les diverses sensibilités et diverses affectivités. Alors, c'est un domaine extrêmement complexe et passionnant à étudier. C'est le cas de le dire, c'est extrêmement intéressant d'étudier les passions. Je vais vous donner la manière dont Thomas d'Aquin a étudié les passions. Oui, c'est trois petits volumes. Et c'est vraiment remarquable qu'un théologien du Moyen-Âge, dans sa somme théologique, ait étudié les passions avec tant de détails. Je l'ai fait par titre d'expérience avec ses psychanalystes freudien que je connaissais. J'aurais dit, écoutez, je vais vous montrer quelque chose, un trésor. Pour vous, c'est un trésor. Et ça vient d'un théologien. Je leur ai montré cette étude. Ils ont ouvert des yeux. Au Moyen-Âge, on a étudié les passions comme ça. Mais c'est bien plus fouillé que ce qu'on fait. C'est bien plus extraordinaire comme étude. Je dis oui. C'est une analyse au niveau passion. Et vous ne faites pas d'analyse au niveau passion. Vous regardez les effets. Vous regardez de temps en temps le conditionnement et comment ça apparaît. Mais c'est très intéressant parce que c'est une manière de voir combien Thomas d'Aquin, de son temps, parce que c'est le seul qui a fait ça, a été loin. Et pourquoi a-t-il fait ça ? Pour se poser la question, y a-t-il dans le Christ des passions, dans l'humanité sainte de Jésus, y a-t-il des passions? Et forcément, il a conclu, c'est bien évident qu'il y a des passions. Jésus avait des passions bien plus, j'allais dire, qui le mettaient bien plus vulnérable que nous, et le mettaient aussi beaucoup plus fort que nous. Alors, saint Thomas a étudié ses passions. Je vais vous donner le petit résumé en essayant de ne pas fausser la pensée de Thomas d'Aquin. Et toute cette étude provient d'Aristote. Mais Aristote n'a pas étudié les passions en éthique. Il les a étudiées en rhétorique. C'est pour les rhéteurs. C'est pour les avocats. C'est très très important pour un avocat de connaître toutes les passions, toutes les ficelles, et dire comme ça, pour essayer d'émouvoir le juge. La rhétorique ne cherche pas la vérité, elle cherche la persuasion. Et un bon avocat ne plaide pas la vérité, il plaide la persuasion. Ça, c'est le bon avocat. Parce que la vérité, ce qu'il veut, c'est d'essayer de persuader. Et on persuade quelqu'un par un jeu passionnel. Mais il y a quand même une vérité. La persuasion, c'est une... Il y a des quantités de domaines où c'est impossible, la vérité. Parce que celui qui a vu quelque chose à droite, vous voyez, c'est comme le gendarme quand il vous arrête. Coup de sifflet, vous certifier que c'est pas du tout ce que vous avez vu. Et c'est souvent très vrai. Son regard de gendarme n'est pas le vôtre de patient. Alors, les passions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les passions? Cet état affectif qui provient de notre sensibilité. Une connaissance sensible. Je vous ai dit ce matin que le toucher est une passion, une connaissance. Je veux dire, le toucher est une connaissance très proche de l'affectivité. C'est sûrement la connaissance la plus affective, la plus liée à l'affectivité. Et quand vous donnez la main à quelqu'un, pour lui faire comprendre combien vous êtes proche affectivement. La compassion. On donne la main et on fait passer à travers la main quelque chose de l'émotion qu'on a, de la douleur qu'on a, de l'affectivité qu'on a, ou bien au contraire, la joie. Alors les gens applaudissent. Curieux qu'on applaudisse, c'est exprimer la joie. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux registres passionnels. Celui du concupiscible. Et celui de l'irascible. Quand on parle de concupiscible et d'irascible, on précise comme tout un aspect particulier de la passion. Donc le concupiscible vu par le philosophe comme ça n'est ni bon ni mauvais. C'est pas la concupiscence. Parce que dès qu'on parle au point de vue moral de la concupiscence, c'est négatif. Le concupiscible, non. La concupiscence provient d'un excès de concupiscible. Alors, le concupiscible regarde le bien sensible. Le bien sensible va susciter en moi un amour passionnel. C'est ce qu'on étudie en premier lieu, le bien sensible. Et le bien sensible, il y a le contraire du bien sensible. Il y a le mal sensible. Et le mal sensible va susciter en moi une haine. Une haine passionnelle. Comme le bien sensible est au présent. Normal, puisqu'il est sensible. Il est sensible, prenez tout simplement le chocolat pour que vous ayez quelque chose que vous représentez à vous-même, pour que vous compreniez. Ceux qui aiment le chocolat, ceux qui aiment l'alcool, le cognac, ils voient une petite bouteille de cognac et c'est trop fort, c'est plus fort que... Ils attendent que tout le monde soit perdu pour mettre la bouteille dans la poche. Ils ne le font pas devant les autres, hein, quand même, un petit peu, mais ils le cachent. Et puis dès qu'ils peuvent, ils prennent ça. C'est plus fort qu'eux. Et il y a un lien. C'est très fort, la passion. Très, très. Ça capte quelqu'un d'une façon étonnante. Alors, c'est un amour, le bien. Le bien suscite en moi un amour. Le bien sensible. Là, il faut décrire ce que c'est que ce bien sensible. Il faut décrire ce que c'est que cet amour sensible, passionnel. Nous avons tous l'expérience d'un amour passionnel. Tous. Nous n'y réfléchissons pas beaucoup. Cet amour passionnel, lorsque le bien est absent, c'est le désir. J'ai vu une bouteille de cognac là. J'attends que tout le monde s'en va. Puis je reviens en catémini. Puis elle a disparu. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'amour, c'est le désir. Oh, j'ai raté le coup. C'est le désir. Le désir, c'est une tension. Ah, c'est une tension, le désir, qui nous prend. Le bien est absent. On aurait pu l'avoir. Et quand le bien est présent, au contraire, la bouteille est là, elle est restée. Personne ne la brise. On est avec des personnes. Moi, je la prends. Alors, la jouissance. Le bien présent. Vous voyez que c'est une analyse très simple du concupiscible qui va de l'amour en passant par le désir. Et la jouissance, le mal, au contraire, le mal sensible, suscite en moi une haine. La haine passionnelle n'est pas mauvaise. Il ne faut pas dire que toute haine est mauvaise. La haine, c'est ce mouvement tout à fait particulier qui se suscite en moi dès que je suis en présence d'un mal sensible. Je ne peux pas aimer le mal. J'en ai une horreur. J'ai horreur du mal sensible. Et donc j'ai de la haine. La haine se mouvant, je me mets le plus loin possible. Alors, le mal sensible absent. Le mal sensible présent. Le mal sensible présent, c'est la tristesse. Le mal sensible absent, c'est la fuite. Vous avez donc, hein, c'est ça qui est intéressant à voir, vous avez donc, dans le concupiscible, six physionomies, modalités de l'amour. Puisque le désir présuppose l'amour. Il n'y a jamais désir sans amour. La jouissance présuppose l'amour. Donc, l'amour se développe en désir. L'amour se satisfait en jouissance. La haine présuppose l'amour. Il n'y a jamais de haine sans amour. C'est le bien qui se change en mal, le bien sensible qui se change en mal, qui provoque la haine. Vous comprenez, s'il n'y avait pas eu un bien avant, il n'y aurait pas eu de haine, il n'y aurait pas de mal. Le mal, c'est la frustration du bien. Alors la haine va provoquer la fuite. Un mal qui peut arriver. Il est absent, mais il est proche. Oui. Alors il provoque la fuite, l'inverse du désir. Il y a une opposition entre le désir et la fuite. Ce sont deux mouvements passionnels différents. Et la tristesse, c'est l'opposition de la jouissance. La jouissance vous épanouit, la tristesse vous referme sur vous. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es triste. Alors qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es épanoui. Tu jouis. Quand il y a un beau soleil. Pas trop chaud, mais un beau soleil. Oui. Il y a quelque chose qui nous épanouit. Oui. Le concupiscible, donc, le concupiscible, c'est une puissance. C'est-à-dire une capacité qui est en moi. À l'égard de ce bien sensible connu, connu parmi sensations. Je vois du chocolat. Si je ne voyais pas le chocolat présent, mais mon concupiscible ne s'allumerait pas. Évidemment, je peux me représenter du chocolat. Hein? Voyez bien. Et en me représentant du chocolat d'une façon très forte, oh, un amour passionnel naît en moi. Puisque la passion peut très bien s'alimenter d'une représentation. Ça éveille en moi une passion. La représentation imaginative suffit. Mais la sensation le provoque plus. Ça, c'est sûr. L'imagination remplace la sensation. Et ça ne dure pas trop longtemps. Tandis que la sensation donne à l'amour et au désir une force énorme. Quant au concupiscible, quant à l'irascible, l'irascible regarde un bien difficile, un bien ardu. Un bien qui exige une lutte. Il y a certaines personnes qui ne sont éveillés que lorsqu'ils doivent lutter. Leur irascible s'allume. C'est très, très curieux, ça. Tandis qu'il y en a d'autres, au contraire, c'est difficile, oh, tant pis. On laisse tomber. Et là, c'est le concupiscible. On a que le concupiscible. L'irascible a, c'est déjà une passion plus élevée. Passion plus noble, c'est plus noble l'irascible que le concupiscible. Le concupiscible, ça nous. C'est les délices de capou. On se laisse aller, va comme je te pousse. Tandis que l'irascible, c'est pas du tout va comme je te pousse. Hein, tu vas voir, je pèse avant toi. Non, c'est toujours l'irascible. On est remonté. Donc, en face du bien difficile, l'irascible. Il y a l'audace. En face du bien difficile, absent, il y a l'espoir. Et, oui, l'espérance. En face du mal, difficile. Difficile, vous voyez, le contraire du bien difficile. Du mal ardu, mettons. Un mal qui demande une lutte. Il y a des choses mauvaises. La lutte peut exciter. Alors, en face du mal, il y a la crainte. En face du mal absent, le désespoir. Et très curieux. Voilà les deux pointes extrêmes de tout le domaine. De tout le domaine passionnel. C'est d'une part l'amour qui est le point de départ et d'autre part la colère. C'est les deux extrêmes. L'irascible se termine en colère. On a tous présents en nous des images de gens colériques qu'on a attisé un peu, vous savez, comme le feu, on a soufflé dessus, on s'est mis en colère. On se met en colère quand on est en face d'un mal, une injustice, à l'égard d'un faible. Qui ne peut pas s'effondre. Et à ce moment-là, on se met en colère pour rétablir le droit. Songez à n'importe quelle colère. Il y a des colères bonnes. La colère en soi n'est pas mauvaise. quand vous voyez, on voit un gosse battu par quelqu'un de plus fort que lui. On rencontre ça de temps en temps sur la route. Les gosses qui se battent. Et un petit gosse, il y en a deux, trois gros qui sont autour de lui, qui le foncent. Intérieurement, ça vous fait un bond. Vous mettez en colère et vous avez envie d'intervenir et sauver ce gosse. Ben, c'est une sainte colère, ça. Alors vous ne le faites pas toujours parce que vous dites c'est difficile, je ne sais pas pourquoi ils sont mis en colère, qu'est-ce qu'il y a demain. Des tas d'excuses qui viennent comme ça. Parce que vous n'avez pas envie du tout de recevoir de vous mettre dans la bagarre. Et c'est vrai, il ne faut pas toujours le faire tout de suite, immédiatement. J'étais sûr que ce gosse souffrait et était dans un état d'injustice. Ben vous devriez intervenir. Vous êtes plus fort, plus costaud. Il y a des colères très curieuses. C'est très curieux, les colères. Les colères au plan politique. Le soir des élections, il y a des colères sournoises. Pendant la guerre, il y avait des colères entre ceux qui étaient gaullistes et ceux qui étaient pétinistes dans les familles. Il y avait des sujets, il ne faut surtout pas regarder, parce que immédiatement, vous voyez des colères. Et aujourd'hui, on retrouve des choses semblables, tu vois. Il y a des domaines où les colères sont très fortes. Le point de vue politique et le point de vue religieux. Le point de vue religieux, ça devient du fanatisme, des colères religieuses. Alors vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Vous avez donc 11 passions. Cherchez bien, il n'y en a pas d'autres. Pas parce que ça te maladie, mais parce que c'est comme ça. Chercher, c'est l'analyse de la passion. Il y a 11 passions. Chacun d'entre nous sommes capables de subir 11 passions. Et toutes les passions sont commandées par l'amour. C'est affectif. Alors l'affectivité, c'est l'amour. Et c'est l'amour sensible. C'est l'amour passionnel. C'est donc l'amour passionnel qui a, par le fait même, 10 visages. Curieux. L'amour passionnel a 10 visages. Le désir, la jouissance, la haine, la fuite, la tristesse. 10 visages. C'est très étonnant, ça. Parce que c'est la passion de colère. Vous ne vous mettez pas en colère quand il n'y a pas d'amour. Ce seul homme, c'est le complètement indifférent. L'indifférence vous empêche de vous mettre en colère. Alors que si vous aimez quelqu'un, vous voyez, si ce pauvre petit gosse qui était battu par des plus forts, vous le connaissiez, c'était votre ami. Alors là, vous n'hésitez pas une seconde. C'est la colère qui vous prend et vous le défendez. Si vous ne le connaissiez pas, vous dites qu'il est plus faible que les autres. Alors, par là, vous mettez de son côté parce que vous avez un sentiment de compassion qui est un sentiment d'amour. Et c'est très important de comprendre que les colères, vous voyez, présupposent ces différents moments d'irascibles. Et ces différents moments d'irascibles sont des figures différentes de l'amour. Vous avez donc, au niveau passionnel, 10 figures de l'amour, 10 modalités d'amour, de l'amour passionnel, de l'amour sensible. Alors vous voyez, tout le jeu particulier, et là c'est ça qui est très intéressant, au point de vue psychologique, c'est de voir que c'est le concours. concupiscible qui est fondamentale. C'est premier, puisque ça regarde le bien sensible. Irascible, le bien sensible, difficile. Donc il y a la note difficile qui s'ajoute. Donc le concupiscible est fondamental et l'irascible dépend du concupiscible. Toujours. Et l'irascible va permettre au concupiscible de prendre une nouvelle forme. C'est évident que quand je me suis mis en lutte, je me suis mis en colère pour sauver quelqu'un qui subissait une injustice, je vais l'aimer encore beaucoup plus. On dit toujours ça, n'est-ce pas ? Qu'une mère, quand elle a eu beaucoup de difficultés avec un gosse, un de ses gosses, elle l'aime d'autant plus qu'elle a des difficultés irascibles. Lutter et dépasser ses colères, parce que quelquefois elle serait mise en colère tout le temps, dépasser ses colères pour arriver à l'aimer. Alors, ce qui est très important et ce qui serait intéressant à voir, c'est les appels de l'un et l'autre. Comment le désir va augmenter, intensifier l'amour. Le désir, quand il est très fort, permet de dépasser les fuites. Parce que ça donne une force, le désir. Le désir, c'est ma force passionnelle. C'est la passion de force. Quand j'ai un grand désir de faire quelque chose, passionnément, je le fais. Et ça me donne un très grand élan. C'est l'élan, le désir. C'est le grand élan, le grand dynamisme. Comme on dit aujourd'hui, c'est le dynamisme. C'est le dynamisme intérieur qui me permet ça. Alors qu'au contraire, la fuite, les bras me tombent. Plus rien à faire. Et surtout dans la tristesse. Et l'audace dans l'irascible. Et l'espoir dans l'irascible. Augmente le désir. L'audace, c'est le bien difficile, tout bien difficile, éveille en moi une audace. Donc vous voyez que ce domaine sensible avec l'imagination et tous ces états affectifs montrent combien il peut y avoir de refoulement en moi. Au niveau sensible, au niveau passionnel, à cause des désirs, à cause des audaces, à cause des tristesses que je veux éviter. C'est pas drôle du tout d'être dans la tristesse. Or, je sais très bien que certaines choses me mettent à la tristesse et je vais à tout prix les éviter. Alors, on voit très bien les ficelles qui peuvent éveiller